Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Brexit, le feuilleton continue.
Reste à faire ratifier demain à Westminster l'accord conclu hier à Bruxelles et ce n'est pas gagné. Un répit en Syrie, la Turquie accepte de suspendre temporairement son offensive contre les Kurdes. Un homme interpellé en France en septembre, on l'apprend aujourd'hui, il prévoyait de détourner un avion. Et puis la justice a tranché dans le dossier du géant Casino d'Angers ouvert le dimanche. Les clients devront se débrouiller seuls aux caisses automatiques.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec un footballeur champion du monde, Adil Rami.
Le plus beau palmarès de gaffe du foot français.
De météo d'ici 7h.
Nuages, averses, orages, vent et 16 degrés. C'est le programme météo de l'après-midi à Phalsbourg, en Moselle.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, le témoignage difficile d'un garde-côte italien.
Comme la photo du petit Aylan mort sur une plage turque il y a 4 ans et qui avait déclenché une émotion mondiale, le récit de ce plongeur nous rappelle que ce qu'on appelle tous les jours la crise des migrants est toujours et avant tout un drame humain. Bonjour Yann Boucherie.
Bonjour.
Cet homme raconte le naufrage d'une petite embarcation au large de Lampedusa le 7 octobre dernier et une image le hante depuis.
Oh. Oui, celle d'un petit corps gonflé, les bras rigides, enlacé par sa maman jusqu'à son dernier souffle. La vision de ce bébé au fond de l'eau était insupportable. Un coup porté à mon cœur, tels sont les mots du chef des plongeurs italiens qui a chapeauté l'opération de recherche. Vous n'êtes jamais préparé à quelque chose d'aussi intense, a ajouté Rodolfo Raiteri dans un entretien au quotidien La Repubblica. Le naufrage s'est produit il y a 10 jours au large de Lampedusa. Seuls 22 migrants sur les 50 à bord ont survécu et les corps de 13 femmes dont certaines enceintes ont été repêchées le jour même du drame. Les plongeurs ont poursuivi leur recherche afin de redonner aux victimes disparues leur dignité et leur offrir une vraie sépulture. Grâce à un drone sous-marin, l'embarcation a finalement pu être repérée à 60 mètres de profondeur. Des images terribles qui ne seront jamais dévoilées, a promis Rodolfo Raiteri. Certaines photos ont malheureusement déjà été publiées sans autorisation par la presse italienne.
Merci beaucoup Yann Boucherie.
RTL, 6h32. Après l'euphorie hier à Bruxelles, les prochaines heures seront décisives pour l'accord sur le Brexit.
Le plus dur reste à faire pour Boris Johnson, qui doit maintenant faire voter ce texte par son Parlement. Ce sera demain lors d'une session extraordinaire. Le compromis validé par les 27 permet d'éviter une sortie brutale du Royaume-Uni. Béatrice Adjadj.
D'abord, les 5 millions de citoyens européens qui vivent des deux côtés de la Manche bénéficieront des mêmes droits après le Brexit. Les entreprises, pour leur part, auront une période de transition jusqu'en décembre 2020 pour s'adapter au retour des barrières douanières en 2021. Le Royaume-Uni payera également une facture pour régler le divorce. Tout ceci était déjà écrit l'an dernier. Ce que Boris Johnson a obtenu en plus concerne l'Irlande. L'île est divisée en deux, entre une partie européenne au sud et une partie au nord qui appartient au Royaume-Uni. Alors pour respecter les accords du Vendredi Saint, il n'est pas question d'y rétablir une vraie frontière entre les deux. L'accord prévoit donc que les produits d'Irlande du Nord destinés au Sud seront contrôlés par les autorités britanniques. C'est une solution qui peut faire redouter certaines fraudes, mais c'est à cette condition que Boris Johnson a accepté de signer.
À Bruxelles pour RTL, Béatrice Adjadj. Washington a mis ses menaces à exécution. Les États-Unis viennent de mettre en place des tarifs douaniers renforcés sur les produits européens. 7,5 milliards de dollars, un peu moins de 7 milliards d'euros, une riposte aux aides accordées à Airbus. Nouvelle nuit de tension en Catalogne, la quatrième, c'est toujours la conséquence de la condamnation début de semaine de plusieurs leaders indépendantistes. Grève générale ce vendredi, une grande manifestation est annoncée cet après-midi à Barcelone. Les États-Unis obtiennent un cessez-le-feu en Syrie. Le président turc Erdogan accepte de suspendre temporairement son offensive contre les Kurdes. Ces derniers ont 5 jours pour se retirer du nord de la Syrie. Quant au sort des djihadistes, il est toujours incertain. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas réussi pour l'instant à convaincre les Irakiens de récupérer et juger les 2000 combattants retenus dans les camps kurdes.
Un attentat déjoué avant celui de la préfecture de police de Paris, c'est ce qu'a annoncé hier soir Christophe Castaner sur France 2.
Le ministre de l'Intérieur affirme qu'un homme a été interpellé fin septembre. Il prévoyait de détourner un avion en s'inspirant des attentats de 2001 à New York. Quant à l'enquête sur Michael Harpon, l'employé de la préfecture de police qui a tué 4 collègues il y a 2 semaines, elle s'oriente, Olivier Bois, vers la piste d'un loup solitaire.
Écoutez, en tout cas, ces motivations restent très mystérieuses. Aucune revendication, aucune allégeance à Daesh n'a été retrouvée. Les documents identifiés sur sa clé USB au bureau n'évoquent à ce stade qu'une activité liée à son travail. Alors oui, il était converti, il y avait cette pratique visiblement de plus en plus rigoriste et il y a cette justification en 2015 de l'attaque de Charlie Hebdo. Ce sont à ce stade, comme depuis le début, les seuls éléments qui orientent l'enquête vers un acte terroriste islamiste. Le portrait qui se dessine est celui d'un homme assez seul, isolé par son handicap, qui n'était pas bien au travail, mais rien qui ne permette de faire le lien avec le fait de massacrer ses collègues. Sa femme affirme n'avoir rien su, les enquêteurs la croient. Même chose pour les 5 hommes sortis de garde à vue sans aucune poursuite. Les ressorts de son passage à l'acte restent donc très obscurs. Rappelons qu'il avait acheté son couteau le matin même de son attaque.
Olivier Bois. À suivre dans l'actualité de ce vendredi, le second jugement dans le procès Balkany, dans le volet blanchiment et corruption. Cette fois, le maire de Levallois en prison depuis 36 jours, en cours jusqu'à 7 ans de prison. Le parquet a requis contre sa femme 4 ans avec sursis. Le couple aurait caché 13 millions d'euros d'avoirs au fisc.
Allez, après la pause sur RTL, le géant Casino d'Angers ouvrira le dimanche, malgré la condamnation en justice. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin,
Julien Cellier.
Et la suite de votre journal, 6h37, vous écoutez RTL. Le géant Casino d'Angers n'aura plus le droit de faire appel à la société qui accueillait les clients le dimanche après-midi.
Plusieurs syndicats avaient saisi la justice pour contester l'utilisation de caisses automatiques après 13h le dimanche. Le tribunal leur donne partiellement raison puisque les caisses pourront rester ouvertes, mais il n'y aura personne pour faire l'accueil. Christian Panvert.
Ce n'est pas Géant Casino qui a été sanctionné par la loi, mais son prestataire, la société Éthic Accueil, choisie pour assurer l'ouverture de l'hypermarché d'Angers le dimanche après-midi. Un jugement qui ressemble à une première victoire pour le syndicat CGT, Patrice Ouvinet, son porte-parole.
Le groupe Casino avait décidé de contourner la loi en faisant intervenir un prestataire d'une société d'animation et en prétendant que le personnel n'était pas là pour faire le travail de caissier ou de caissière, mais de faire de l'animation, ce qui est complètement faux, puisqu'il faisait le travail que normalement les caissiers et les caissières du magasin font, c'est-à-dire assurer l'encaissement, conseiller les clients quand il y a des soucis. Et le juge leur a expliqué à nouveau que c'est pas possible qu'on fasse comme ça et que même Casino, comme d'autres, doivent respecter la loi, et rien que la loi.
La société Éthic a été interdite par la justice d'employer à nouveau ses salariés pour aider les clients sous peine d'astreinte de 5000 euros par infraction constatée. Casino estime que cette décision ne lui interdit pas d'ouvrir le dimanche après-midi. Il le fera d'ailleurs dès ce week-end, sans animateur, mais avec des vigiles. Ce sont des affichettes qui guideront les clients.
Christian Panvert. Édouard Philippe confirme que le gouvernement va prendre son temps sur la réforme des retraites. Il débattait hier soir devant des parents d'élèves à Lons-le-Saunier dans le Jura. Ce n'est pas pour demain, on n'a pas du tout envie d'y aller à toute vitesse, a dit le Premier ministre. Renault abaisse ses prévisions de croissance. La marque qui doit publier ses résultats dans une semaine devrait annoncer un chiffre d'affaires en baisse de 3 à 4% par rapport à l'an dernier. Renault vient de se séparer de son numéro 2, Thierry Bolloré.
Les chartes de bon voisinage entre agriculteurs et habitants n'ont pas encore prouvé leur efficacité.
Elles devaient permettre de régler les conflits sur l'utilisation des pesticides et la bonne distance à respecter entre les champs et les zones résidentielles. Alors pour l'instant, le gouvernement refuse de trancher, donc ce sont les deux parties qui doivent s'entendre, mais ce n'est pas gagné. Philippe de Maria s'est rendu chez un Girondin dont le jardin est tout près de vignes arrosées de pesticides.
Au bout du jardin de Jean-Claude, 15 hectares de vignes, appellation Pessac-Léognan. Elle n'était pas là quand il a acheté son pavillon il y a 30 ans.
Pendant 15 ans, il n'y a pas eu de vignes et depuis, il y a eu une implantation de vignes. 6,50 m de la clôture, ce qui fait que les engins sont obligés de manœuvrer pour prendre le rang.
En 2016, Jean-Claude est en train de filmer un épandage depuis une route à côté de chez lui, juste en bordure de vignes, et il est pris dans le nuage.
D'abord, ça sent, vous sentez que ça picote, et j'ai été pris de malaise. Ça a fait l'objet d'une plainte.
Plainte sans suite pour le moment. Jean-Claude a bien tenté le dialogue avec l'exploitant, pas toujours facile.
On lui a souvent demandé, on le traite avec quoi ? Et ça, c'était le refus.
Aujourd'hui, Jean-Claude et son association Génération Future souhaitent participer à l'élaboration des chartes d'engagement entre riverains et agriculteurs.
Je ne sais pas si nous sommes les bonnes personnes, mais du moins les personnes concernées, les parties prenantes, nous ne sommes pas écoutées.
Et il n'a toujours pas reçu d'invitation. Processus en cours, nous répond la Chambre d'agriculture de la Gironde qui doit rendre sa copie avant fin mars.
Philippe de Maria, puisqu'on parle de culture, allez voir à partir de demain, si vous êtes à Paris, le Blob. C'est le nouvel invité du zoo de Vincennes, une sorte de champignon, une curiosité assez indéfinissable, une seule cellule, pas de cerveau, pas de bouche, mais un petit d'ogre. Ça me fait rire, c'est le blob.
Il a pas de cerveau et il arrive à réfléchir.
Ouais, c'est
absolument fascinant, franchement.
L'anti-ogre, une leçon.
C'est absolument fascinant. Comme les journaux de Jérôme Florent, le prochain c'est à 8h, ouais. Avec Yves Calvi, à tout à l'heure.
Sans blob.